Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi. J'espère que vous allez bien, Marianne Paquette. Au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes à travers l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Eh bien, le défi sportif Altergo tire tranquillement à sa fin. La grande finale a lieu ce dimanche 3 mai. Et je vous le disais plus tôt cette semaine, cette année, c'est vraiment une année record en ce qui a trait à la participation. On parle de 100 écoles de 12 régions du Québec. Et si on résume, c'est un peu plus de 5000 jeunes qui vivent avec différentes limitations qui ont eu la chance de découvrir le monde de la compétition sportive et avoir la chance de participer à ce défi qui est vraiment, et je vous l'ai répété tout au long de la semaine, un événement qui est unique, une expérience hors du commun. Derrière ces jeunes, il y a bien sûr des parents qui durant toute l'année sont là pour encourager, encadrer, consoler et, bien sûr, y croire. Je termine donc cette semaine d'entrevue avec Annick Larose, elle qui est d'abord directrice, je dirais d'abord maman. Maman d'une jeune fille qui s'appelle Marie, qui participe depuis plusieurs années au défi sportif Altergo et ensuite directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Elle sera là en deuxième partie de l'émission, Annick Larose, pour nous parler de l'impact du défi sportif sur les jeunes et leurs familles. Et puis, d'abord, le retour du beau autant, c'est l'occasion pour plusieurs de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs du vélo. Et cette année, à l'instar de plusieurs pays et villes d'Amérique du Nord, Vélo Québec déclare le mois de mai comme étant celui du mois du vélo. Une bonne occasion pour vous rappeler, pour rappeler aux cyclistes, si vous en êtes un ou une, mais également aux piétons, aux automobilistes, qu'il y a quelques règles de sécurité et de civisme à respecter, mais aussi pour vous dire que toutes les raisons sont bonnes de sortir votre vélo. On peut aller travailler en vélo, on peut faire des courses à vélo, on peut même voyager à vélo. Et c'est aussi une excellente façon de se remettre en forme et de garder la santé. Pour en parler davantage avec moi, Annick Saint-Denis, directrice au transport actif chez Vélo Québec, et Anne Pelletier, kinésiologue à la Direction de santé publique de Montréal. Bonjour, mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Annick Saint-Denis, vous êtes directrice au transport actif chez Vélo Québec. Bonjour, d'abord. Anne Pelletier, kinésiologue. Annick, c'est la première édition du mois du vélo ici au Québec.
Oui, en fait, le mois du vélo se célèbre depuis de nombreuses années un peu partout dans le monde, mais c'est la première fois comme organisme provincial, qu'on décide de décréter en fait le mois de mai, le mois du vélo, donc pour encourager le maximum de gens à ressortir son vélo et puis profiter du début de la belle saison. Et aujourd'hui, vraiment, on a notre première belle journée de printemps.
Un 1er mai qui annonce les beaux jours.
Tout à fait.
Oui. Anne, le vélo, je le dis un petit peu en introduction, ça de nombreux avantages. C'est économique, c'est accessible, en plus c'est respectueux de l'environnement, mais en plus c'est bon pour la santé, ça a de nombreux bienfaits, autant sur la santé mentale que physique.
Tout à fait. En fait, le vélo, comme toute activité physique, va procurer autant des bienfaits sur la santé physique que mentale. Au niveau de la santé mentale, après environ 15 minutes, on peut ressentir une espèce de légère euphorie. Mm-hmm. C'est dû à la sécrétion d'endorphines qui nous permettent de se sentir bien dans notre peau. On voit une réduction, entre autres, des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression associés à la pratique d'activités physiques, comme le vélo. Au niveau des bienfaits physiques, le vélo en soi est une excellente dépense d'énergie. Ouais. Donc, au niveau de la prévention de l'obésité, mais aussi on active son cœur, les battements un peu plus rapides, ça aide en prévention des maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète et plusieurs autres maladies.
J'ai l'impression aussi, et je le disais, que le vélo, c'est accessible, c'est-à-dire que pour les personnes plus âgées, c'est possible également de rester actif en étant bien en selle.
Oui, tout à fait. Le vélo est un excellent exercice d'équilibre, donc, il serait conseillé de pouvoir continuer le vélo aussi tard que possible dans la vie. Ça aide, entre autres, à prévenir les chutes, parce que, rester sur deux roues, c'est moins facile que rester sur deux pieds. Ouais. Et si on est capable de continuer à pédaler, pourquoi pas.
Oui.
Sinon, ben, il existe toujours les trois roues ou d'autres options d'adaptation de notre vélo là, si on a vraiment envie de continuer.
Bien sûr, on veut prévenir les chutes, rester sécuritaire. Quelles sont les petites règles peut-être à respecter là, afin de s'assurer que vraiment on pratique le vélo en toute sécurité, Annick?
Bien, en fait, on est d'abord et avant tout comme cycliste, on a les mêmes règles que les automobilistes à respecter. Donc, le code de la sécurité routière, ça est là pour tous. Et c'est important que tout le monde le respecte. On a tendance au Québec à être un petit peu délinquant, qu'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. En fait, c'est souvent les mêmes gens. Donc, de bien s'assurer qu'on respecte les autres usagers de la route et qu'on est bien visible. Donc, première règle, être bien visible. Donc, si on arrête à un coin de rue, s'assurer que les automobilistes nous voient, qu'ils comprennent bien nos intentions. Donc, être visible, faire le contact visuel avec les automobilistes, respecter les piétons et aussi signaler nos intentions. Donc, c'est quand une voiture ne signale pas qu'elle va tourner et qu'on est prêt à la dernière minute, on trouve ça très désagréable. C'est la même chose en vélo.
Mm-hmm. Ah. Oui. Ben, poursuivez, oui, pardonnez-moi.
En fait, puis il faut aussi avoir un équipement qui est adapté. Donc, si on a un vélo qui n'est pas en bon état, bien, on risque d'avoir plus de chances de se retrouver dans une situation fâcheuse qui pourrait devenir dangereuse.
J'ajouterais aussi, en fait, que l'importance de l'endroit où on pédale, c'est important que l'environnement soit aussi sécuritaire. Donc, les pistes cyclables, la signalisation, il fait pour beaucoup là, dans la sécurité.
Est-ce que Vélo Québec encourage le port du casque, j'imagine?
Vélo Québec encourage le port du casque, définitivement. C'est un élément de sécurité important. Toutefois, on n'est pas pour la législation d'obligation de port du casque, puisque c'est premièrement très difficile à implanter. On verrait très mal comment les policiers pourraient intervenir auprès de jeunes, notamment d'enfants. Et on est plus dans un mode de promotion, de sensibilisation, donc de faire comprendre aux gens les bienfaits du casque et d'encourager les familles à, ensemble...
Certainement.
S'équiper.
À partir de quel âge, là, pour un petit, on recommande le port du casque?
Ben, le port du casque devrait être toujours. En fait, l'enfant peut commencer à être sur le vélo très, très, très jeune comme passager sur un siège de vélo. Donc, l'enfant qui est derrière son père ou sa mère sur le vélo devrait porter un casque. Et ensuite, l'enfant va commencer à pratiquer. On est chanceux, on a de plus en plus de façons de commencer à faire du vélo très jeune. Ouais. Maintenant, avec les draisiennes notamment, là, des petits vélos qui n'ont pas de pédale, qui vont justement, comme on parlait tantôt d'équilibre, développer l'équilibre chez l'enfant. Et quand il sera prêt à passer avec un petit peu plus de force à pédaler, bien à ce moment-là, il aura déjà développé ce côté-là. C'est certain que dans la cour, à la maison, dans un parc, en circuit fermé, sur une petite draisienne où on va très lentement, bon, qu'un enfant porte un casque ou pas, on s'entend qu'il tombe de très, très bas également. Donc, les risques sont très limités, mais c'est une habitude à prendre de la jeunesse.
Certainement. Anne, on parlait des nombreux avantages du vélo. C'est une façon aussi pour quelqu'un qui est peut-être un petit peu rouillé, qui n'a pas fait d'activité physique depuis longtemps, de se remettre en forme. C'est assez doux pour ça?
Oui, tout à fait. En fait, le vélo a cette propriété de pouvoir être pratiqué à toutes les intensités. Donc, on peut y aller très doucement, 10-15 minutes à la fois, avec des vitesses très légères. Puis au fur et à mesure qu'on se sent plus solide et plus en forme, on peut ajouter un peu d'intensité là, sans problème.
Assez doux pour les articulations également?
Tout à fait. Mais en fait, puisqu'on est assis, on n'a pas de mise en charge qu'on appelle, pas d'impact sur le corps comme tel. L'impact est dû au rebond quand on marche ou quand on court. Donc, assis, on pédale, c'est un roulement. Donc, pour les personnes qui auraient, par exemple, des problèmes d'arthrose au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau du bas du dos, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé, en fait.
Qu'est-ce qui est davantage sollicité quand on pratique le vélo? Bon, bien sûr, d'entrée de jeu, on pense aux jambes, mais est-ce que tout le reste du corps travaille aussi?
Bien, il faut avoir d'abord et avant tout une bonne posture sur son vélo, sinon, gare à nous le lendemain.
C'est quoi la bonne posture?
Ben, dépendamment du vélo qu'on aurait, si on a un vélo de ville standard, il faut pouvoir être légèrement penché vers l'avant, peut-être un angle de 30 degrés. Il faut pouvoir avoir les coudes légèrement fléchis, jamais complètement droit. Si c'est le cas, on est trop loin. Il faut aussi, quand on est assise, quand la pédale est en position la plus éloignée, il y a une légère flexion dans le genou. Donc, tu me corrigeras?
Oui, tout à fait.
Elle vous écoute attentivement, Annick Saint-Denis.
Ensuite, normalement, si on veut pédaler comme il faut, une légère contraction des muscles abdominaux. Comme ça, on évite les maux de dos le lendemain. Les épaules bien détendues. et puis on est prêt.
Est-ce que le spinning qui se pratique de plus en plus dans les gyms a les mêmes bienfaits que le vélo à l'extérieur?
Théoriquement, oui. C'est sûr que le bénéfice d'être dans un cadre agréable, de verdure, de nature, peut-être moins, ou de n'a pas le côté pratique de déplacement non plus.
En effet.
Mais c'est du vélo.
Oui, et une bonne façon de garder la forme là, pendant l'hiver, parce que c'est un peu moins pratique de faire du vélo l'hiver, quoique il y en a bien des gens le font. Comment on choisit, Annick Saint-Denis, son vélo? Tantôt, Anne soulevait quelque chose d'intéressant. Il y a des vélos de ville, il y a des vélos de campagne. Il faut vraiment qu'on trouve le vélo qui est bien adapté à notre mode de vie.
Tout à fait. Mais enfin, avant de s'acheter un nouveau vélo, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vélo? Le vélo, ça peut être un mode de transport, ça peut être un sport, ça peut être aussi juste un loisir actif. Donc, dépendant de nos besoins, qu'est-ce qu'on veut faire avec le vélo? Est-ce qu'on va faire du vélo juste en ville? Est-ce qu'on va l'amener à l'extérieur pour des plus longues balades la fin de semaine, etc.? Donc, il faut vraiment se questionner sur ce qu'on veut faire avec son vélo. Et ensuite, il faut communiquer. Il faut parler avec son vélociste. Il faut bien lui expliquer ce qu'on a besoin. Des belles couleurs tapent à l'œil, c'est pas ça qui va faire le confort sur un vélo. Donc, de bien exprimer ce qu'on veut faire avec son vélo, de s'assurer qu'on est chez un marchand qui connaît, qui est capable de nous conseiller. Des fois, les grandes surfaces, c'est peut-être pas la meilleure solution si on est moins connaissant. Ouais. Donc, d'aller quelque part où quelqu'un peut nous conseiller, nous assurer qu'on a un cadre de la bonne grandeur, qu'on va pouvoir être confortable et pouvoir être efficace sur notre vélo.
Également, si le vélo est remisé depuis longtemps ou du moins pendant l'hiver, il faut s'assurer qu'il peut reprendre la route. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour s'assurer qu'on est encore une fois en toute sécurité avec le vélo?
Bien, idéalement, un vélo devrait avoir un petit entretien régulier à chaque année. Donc, pour une quarantaine de dollars, on peut faire un entretien régulier. On va s'assurer que les freins sont fonctionnels, qu'ils ne sont pas trop usés, que la roue n'est pas voilée, que les vitesses fonctionnent bien. Et tous ces petits détails-là, huiler la chaîne notamment. Donc, ce sont des choses qui peuvent se faire une fois par année. Le vélo, ensuite, si on s'en sert régulièrement et... Il n'y a pas nécessairement besoin d'entretien très régulier. La chaîne va toujours rester plutôt lubrifiée juste par l'utilisation. Mais c'est important, si le vélo n'a pas servi depuis longtemps, de faire une bonne vérification.
Et si on s'y remet tranquillement, vous en parliez tout à l'heure, Anne Pelletier. Bon, c'est quoi? C'est 15 minutes à peu près par jour, quelques fois par semaine. Là, on veut reprendre la selle un petit peu. Comment on peut s'y prendre?
Mais en fait, il faut d'abord et avant tout respecter ses capacités. Donc, il faut y aller en fonction de notre état de santé, puis en fonction de nos capacités physiques. On devrait, quand on fait du vélo, sentir un léger essoufflement, mais pas être à bout de souffle. Ouais. On devrait être capable de parler, en fait, en faisant du vélo. Ça serait peut-être le point de repère le plus concret que je pourrais donner. Si on pédale puis on n'est pas capable de parler en même temps, c'est qu'on est allé dans une intensité qui est beaucoup trop élevée pour un point de départ. On y va jusqu'à une légère fatigue, mais pas un épuisement non plus. Donc, il n'y a pas de limite de temps. Chaque personne a sa condition physique de base. Donc, on doit vraiment être en mesure de s'écouter. Se dire, OK, moi, je suis fatiguée ou j'ai mal aux jambes, j'arrête. Maintenant, c'est assez. Mais...
Et choisir ses trajets aussi, parce que faire du vélo sur une piste cyclable, c'est peut-être plus aisé que de le faire en montagne.
Oui, c'est sûr qu'un parcours plat, pour commencer, serait peut-être une meilleure option que décider de traverser le pont Jacques-Cartier, par exemple.
Oui. Et en même temps, ce qu'il y a de formidable avec le vélo, bon, bien sûr, depuis tout à l'heure, là, on énumère tous les avantages, ça peut se faire avec les enfants. Donc ça, c'est chouette. À partir de quel âge, là, on peut mettre un enfant sur son vélo?
Le vélo, c'est très démocratique, hein? Tout le monde peut en faire, mais en termes de à quel âge un enfant peut être sur son propre vélo, ça dépend beaucoup de chaque enfant. On a des enfants qui, à 3 ans, sont capables de faire du vélo. Moi, mon fils, ça a été jusqu'à 8 ans, j'ai travaillé très, très fort.
Ah oui?
Donc, chaque enfant a ses capacités. Je pense qu'il faut respecter le rythme, il faut aussi les encourager puis leur permettre d'évoluer puis d'avoir du plaisir quand même. Donc, il y a toutes sortes d'options qui existent. On peut commencer avec un enfant plus jeune qui veut venir avec nous, qui veut faire des sorties à vélo. On peut avoir un vélo remorque. Donc, l'enfant est sur un vélo, il pédale, mais il est tracté par son parent, dans le fond. Seul, il y a aussi tout le côté de la perception de son environnement, de sa capacité. Donc, un enfant, un parent, en fait, est le plus apte à juger de la capacité du jeune, autant physiquement, mais aussi en termes de comportement sur la route. Donc, jusqu'à quand un enfant doit être accompagné, ça dépend aussi beaucoup du milieu dans lequel il roule. Donc, si on est sur une piste cyclable en site propre, donc complètement séparée du trafic automobile, un enfant va beaucoup plus jeune être capable de se déplacer là en une certaine autonomie. En ville, avec la qualité de la chaussée, qui demande de rapidement réagir à des situations qui peuvent être problématiques et où l'enfant n'a peut-être pas ce réflexe de qu'on a comme conducteur. Nous, on sait c'est quoi faire l'angle mort, on a tout appris ça, on le possède.
Ces réflexes sont développés.
Oui. Donc, c'est vraiment le milieu qui va faire aussi la différence en termes de la nécessité d'accompagnement puis de l'autonomie de l'enfant.
À même titre que les petites roues là, qu'on met derrière, on sait en tant que parent quand les enlever, quand c'est le bon moment, j'imagine. Alex Saint-Denis, je ne peux m'empêcher de vous demander si, au sein de Vélo-Québec, ça vous préoccupe les accidents, de graves accidents qu'il y a eu auprès des cyclistes dernièrement. Bon, c'est le retour du beau temps. Est-ce que vous avez un œil là-dessus?
Tout à fait. On est toujours... nous, on est basé à Montréal, mais la préoccupation est sur l'ensemble du territoire. On a été impliqués dans les discussions sur la refonte du Code de la sécurité routière pour essayer de faire une meilleure place aux cyclistes. Le Code de la sécurité routière, je ne sais pas si Anne, tu sais la date, mais ça date dans les années 70, si je ne me trompe pas.
Je pense que c'est 1980, en fait, l'entrée en vigueur du dernier code.
Donc, les choses ont changé. Il y a beaucoup plus de cyclistes. Donc, on devra revoir la place de chacun. Ça, c'est une chose. Ensuite, en termes de sur la route, ici, tous les jours, c'est certain qu'on fait des recommandations régulièrement, autant en termes d'aux abords des écoles pour les plus jeunes, mais aussi sur les parcours, sur les types d'aménagements aussi qui seraient les plus appropriés. Mm-hmm. On est en discussion avec les gens de la Ville à Montréal régulièrement pour s'assurer de ça. Mais il faut faire attention, on dit de plus en plus d'accidents, c'est pas nécessairement le cas.
Peut-être qu'on en parle
davantage. On en parle davantage et c'est une bonne chose parce qu'on sensibilise les gens à avoir un bon comportement et on sensibilise aussi les décideurs à prendre des actions pour limiter encore plus ces accidents-là, mais il n'y a pas nécessairement une recrudescence d'accidents.
Puis en même temps, ça revient à sensibiliser la population à cette cohabitation qui est importante entre les automobilistes, beaucoup, et les cyclistes. Bon, bien sûr, les piétons, mais c'est un petit peu moins d'impact peut-être là, qu'un camion, qu'un six-roues. Évidemment, ça, c'est de continuer à véhiculer ce message-là qui est extrêmement important. Tout le monde a sa place sur la route. Et bien sûr, les cyclistes sont beaucoup plus vulnérables. En terminant sur une note peut-être plus joyeuse, on veut parler de ce mois du vélo, le mois de mai, qui est annoncé par Vélo-Québec, Annick Saint-Denis. À quoi on peut s'attendre comme activité un petit peu partout en province?
Ben, en fait, le mois du vélo, ça se veut un élément rassembleur. Donc, on a toutes sortes d'activités. Écoutez, ça va de... Bon, il va y avoir la fin du mois, la férière du vélo de je me trompe. On a changé de nom. C'est le Festival Go Vélo Montréal, donc, depuis 2 ans. Le Festival Go Vélo Montréal avec le Tour la nuit, le Tour de l'île. Donc, une belle façon de finir le mois. Mais tout au long du mois, on a des activités dans toutes les régions du Québec. Les gens peuvent aller sur le site moiduvélo.québec, pas .qc, .québec.
Oui, je l'ai sous les yeux, moiduvélo.québec.
Et il y a là un calendrier de toutes sortes d'activités qui sont proposées dans toutes les régions du Québec. Ça va du concessionnaire automobile qui vous prête un vélo comme transport de courtoisie pendant les réparations à des festivals, des sorties sur route, des petites compétitions amicales et autres. Donc, je vous invite à aller voir.
C'est la première édition, mais j'imagine que ça ne sera pas la dernière, Annick.
Effectivement.
Et pour en savoir davantage, www.vélo.qc.ca au mois du vélo.québec. On mettra bien sûr ces liens sur le site du Canal M. Annick Saint-Denis, je le rappelle, vous êtes directrice au transport actif chez Vélo-Québec. Anne Pelletier, kinésiologue à la Direction de santé publique de Montréal. Bonne saison du vélo. Hello à vous deux. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Annick Larose, bonjour.
Bonjour.
Je le disais tout à l'heure, vous avez deux fonctions plutôt importantes. Peut-être la première, c'est être maman, maman d'une jeune fille qui s'appelle Marie.
C'est ça.
Qui a 20 ans maintenant, qui participe depuis plusieurs années au défi sportif Altergo. Et puis par la suite, ben, vous êtes directrice générale de l'organisme de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. D'ailleurs, une nomination qui a été annoncée à la mi-février, à peu
oui,
près.
Oui, c'est ça. C'est très récent. Donc, je suis rentrée en fonction le 1er avril.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Annick, bon, je reviens peut-être à ce premier rôle, celui d'être maman de cette jeune fille qui vit avec la trisomie 21, avec une déficience intellectuelle également. Elle participe au défi sportif depuis combien de temps?
Depuis qu'elle est en secondaire 1, donc je vous dirais, j'ai pas calculé les années, là, elle devait avoir 13 ans, donc ça doit être sa 7e année à peu près. Chaque année, nous demeurons dans la région de Laval. Donc, elle va à l'école Leblanc et l'école participe au défi sportif. Là. Donc, ça fait au moins sa 7e édition.
Vous étiez là ce matin
oui,
au défi sportif?
Oui, j'étais là ce matin. Oui, oui, je suis allée. Elle compétitionnait pour la natation. Donc, je suis toujours renversée. Bon, j'ai eu la chance également d'y aller mardi parce qu'on célébrait le 40e anniversaire.
Ben oui, on s'est croisés d'ailleurs.
On s'est croisés là-bas. Mmh. Et je trouve toujours que c'est tellement bien organisé, cet événement-là. Comme parents, ça nous, y a une fierté qui se dégage dans cet événement-là. Moi, à chaque fois que je rentre, je suis donc contente que ma fille puisse participer à ça. En même temps, les jeunes se préparent toute l'année à cet événement-là. Donc, ils l'attendent. Moi, elles m'en parlent, ils anticipent. Et quand ils ont la chance de gagner une médaille, ben c'est la joie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie de nos jeunes là, qui ont une déficience.
Si elle s'y prépare à l'année longue, j'imagine que ça a changé depuis, bon, ses 13 ans à peu près, sa perception du sport, son goût de l'activité physique aussi.
Oui, bien, c'est sûr qu'on on tente, on n'est peut-être pas assez actif encore comme famille, mais quand même, on fait des activités. C'est sûr que je pense qu'il y a une enfance qui est mise à l'école et puis c'est un objectif. Mais aussi, c'est la possibilité de vivre des succès puis d'avoir une fierté. Donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle n'ont pas nécessairement beaucoup d'occasions, moi, je dis un peu, de se péter les bretelles. De se démarquer. Ou de les inciter, dans le fond, à se dépasser. Parce que c'est vrai que, bon, on en a tous des limitations. Eux, ça paraît peut-être plus. D'arriver à se dépasser, de se valoriser là-dedans, c'est formidable. Et ça a vraiment un impact parce que je voyais des parents ce matin, dont des mères de copines de Marie. Puis je posais la question à une d'entre elles, « Qu'est-ce que ça fait, toi, dans ta vie, le défi sportif? » Et elle me disait, « C'est du rayonnement. » Mais c'est du rayonnement pour sa fille, mais également pour le reste de la famille. Puis la famille, pas nécessairement la famille nucléaire, mais la famille élargie. Oui. Donc, et ça fait également un point de discussion avec le jeune. Donc, une fierté de montrer s'il gagne, de montrer sa
médaille.
Marie
a un frère et une sœur, oui. Si je ne me trompe pas.
C'est
donc,
ça.
Bien sûr, pour eux aussi, c'est une fierté de voir leur grande sœur.
Oui, puis ils ont l'occasion aussi de vivre d'autres réussites. Puis elle, bien aussi, elle a ses réussites. Donc, je pense que c'est très positif et c'est de voir aussi toute l'attention et la qualité au niveau de l'organisation qui est portée pour cet événement-là. Donc, nous, comme parents, on n'est pas différents des autres parents. On veut toujours ce qu'il y a le meilleur pour nos enfants. C'est la même chose quand un enfant a une limitation fonctionnelle. Donc, de voir qu'on met autant d'attention, autant d'application pour organiser un événement comme ça, ben, ça nous fait nous bomber le torse, puis on est fiers.
J'imagine qu'en tant que directrice de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, vous allez avoir envie d'appuyer aussi cet événement-là, d'y participer, de le faire rayonner encore plus.
Oui, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est sûr qu'on on a toujours en tête qu'on vise de plus en plus l'inclusion. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, mais je trouve qu'un événement comme ça, ça a un sens et je pense qu'on de voir toutes ces personnes-là qui sont réunies et qui vivent cet événement-là, je pense qu'on ne peut qu'être contents, nous, comme regroupement qui représentons la déficience intellectuelle, de voir que des jeunes de tout âge puissent se dépasser et montrer, dans le fond, aux médias, parce que les médias s'intéressent de plus en plus également.
Et au grand public.
Bien, c'est ça. Donc, de montrer leur réussite, je pense que c'est vraiment un plus, là.
Est-ce que le sport ou l'activité physique peut être un facteur d'inclusion sociale?
Tout à fait. Et c'est sûr que les bonnes habitudes de vie, puis ça, c'est un autre aspect qu'ils ont développé dans les écoles, qu'Altergo a développé. Et moi, je pense que c'est très gagnant parce que les personnes... Bon, ma fille, elle a une trisomie. On sait que les personnes qui ont une trisomie ont une petite propension à prendre du poids, donc d'apprendre à bouger, que c'est quelque chose qui est important, de connaître comment bien s'alimenter. Je pense que c'est très positif au niveau de la santé. Ultimement, les décideurs devraient être très contents de ça parce que ça fait que les coûts de la santé vont diminuer si les gens sont bien nourris, bougent, ainsi de suite. C'est la même chose pour monsieur, madame, tout le monde comme pour ces personnes-là. Donc, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Et puis, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est le plaisir aussi.
Oui. La fierté,
parce que je le répète, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de pouvoir se montrer sur leur vrai jour parce qu'ils en vivent des succès. Et malheureusement, on veut retenir un petit peu plus ce qui leur difficulté. Mais,
et les limitations.
Oui, hein. Puis je me disais ce matin, si on pouvait trouver une espèce de machine qui mesure la fierté et l'encouragement, là, dans un événement comme ça, ça serait, je pense que la flèche serait au plafond.
Ben, je le dis à tout le monde, hein, on devrait tous assister entre le 27 avril et le 3 mai. Oui. Bon, ça varie à chaque année, mais au défi sportif Altergo, le pouls de cet événement. Et ça nous porte pendant plusieurs jours.
Oui, ben moi, je vous ai dit en arrivant, j'étais vraiment galvanisée. Moi, je suis arrivée au bureau, j'étais tellement fière. Mon mari, elle a très bien fait ça. J'étais très, très fière. Mais au-delà de ça, je pense que c'est cette fierté-là, puis de se dire, on est capable, puis on est derrière vous.
Annick Larose, je le rappelle, vous êtes maman de Marie Bélanger, et puis aussi directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Merci beaucoup d'être passée nous voir.
Merci de l'invitation.
J'imagine que ça ne sera pas la dernière fois.
Au plaisir.
Au plaisir, Annick Larose. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été là tout au long de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Bye-bye.